Ça, c'est une parole de Cévenol, parce qu'on n'aime pas du tout les dogmes. On a le culte de la résistance, hein, de dire non à l'inacceptable.
CO2, mon amour.
Et l'abeille noire dit non à l'inacceptable du point de vue apiculture, à des pratiques qui vont trop contre sa nature. Elle dit non, elle se met en colère, elle pique terriblement, elle rend la vie impossible. Et il y a des apiculteurs qui aujourd'hui aimeraient bien la sélectionner pour la rendre docile, oui, et plus productive. Mais ce ne sera plus de l'abeille noire, ce sera de l'abeille noire altérée par l'être humain.
Avec Denis Chessoux.
Ça, ce sera de la Holstein de l'abeille.
Ouais, une bonne vache allée pour la montagne, à miel plutôt, une vache à miel.
Sur France Inter.
L'abeille noire sera donc la star de CO2, mon amour, vous l'avez compris. On va partir du côté du Mont-Lozère. Bonjour à toutes et à tous. Clément Berman nous accompagne à la technique et assisté de Camille Blanès. C'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. À Jacques Perrin, au moins deux lieux pour l'accueillir, le ciel colorié d'oiseaux et le paradis bleu de l'océan. Encore un bon marin qui quitte en douce ce bateau ivre terrestre, parti un peu beaucoup à la dérive. Alors tu comprends, me disait-il, le beau, le vivant, les gens ne le voient pas. Personne n'y est insensible, bien sûr, mais c'est souvent extérieur à eux. Alors nous, on tente de relier tout ça, toi avec des mots qui font des images, et puis moi avec des films. Alors le regard de Perrin avait une douceur admirative sur ce qui l'entourait, du minuscule dans les gouttières herbeuses jusqu'au voyage aérien ailé par-dessus les toits des pays. « Je suis couvert d'une multitude de cicatrices », disait-il, « mais la vie reprend toujours ». Écoutons-le, c'était en 2010, au moment du lancement de Océan.
C'est un théâtre de la vie splendide. Et donc, dans cette vitrine qui correspond, je crois, à 250 et 1000 espèces recensées, on n'en a tourné que 200 à peu près, il n'y en a que 80 qui restent dans le film. Mais quelle expression, quelle danse, quel ballet, quel opéra sauvage. Et donc, c'est tellement confondant. Moi, j'ai l'impression, quand on découvre les choses, la vie naturelle, mais que l'on méconnaît, hein, des particularités de ces animaux, la façon dont ils se comportent, les différences, les attachements, les relations qu'ils ont dans un écosystème, les relations et interdépendances les unes aux autres, quand on s'en approche et on est simplement les observateurs discrets, on est fasciné. Et ce qui est très bizarre, et ce que j'aime bien, c'est que dans le même temps, comme on ne le connaît pas très bien, on trouve un sens qui a chacun de l'expliquer, mais un sens à la vie. Et d'une certaine façon, comme c'est un monde complètement différent d'une autre, il nous renvoie à notre image et il nous permet de mieux regarder. En regardant les océans, je ne sais pas, j'ai l'impression que j'ai envie de regarder la forêt, celle qui est proche, la Fontainebleau, Rambouillet, j'ai envie d'aller les voir. Parce que la planète, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est riche, mais elle est riche de diversité. Et donc quand on méconnaît quelque chose et qu'on s'en approche et que finalement on le découvre véritablement, ça ouvre notre âme. Mais je pense toujours que, un petit peu, voilà, notre âme, c'est comme une âme, une mer intérieure. Et donc, de temps en temps, on va sur le grand large, la mer, et on découvre, grâce à cette faculté, comme ça, d'émotion, on découvre le grand large.
Alors, il a eu cette intuition sur la conscience écologique naissante, hein, via le cinéma animalier, mais il avait d'ailleurs aussi quelques craintes.
La chose que l'on peut reprocher à nos sociétés, c'est l'indifférence. C'est l'indifférence, c'est la grande culpabilité.
Et l'inaptitude à la limite.
Et l'inaptitude. Mais pratiquement, quand je parle en Corse, je vais en Sardaigne, je dis, vous souvenez, il y avait des phoques moines. Ah bah oui, il n'y en a plus maintenant. C'est fini, on a le petit constat, ça fait même pas, c'est pas suffisamment important pour paraître dans un journal. À chacun de comprendre que ce que l'on dit un peu dans notre film, là, c'est que la Terre, c'est pas notre jardin. Il y avait un titre merveilleux d'un des premiers cinéastes comme ça qui nous a emmené dans le genre cinématographique, c'est-à-dire film et non pas documentaire. C'était un film de Gérard Vienne, François Bell et Michel Fano qui s'appelait Le Territoire des Autres. Territoire des Autres, d'ailleurs, j'ai pas trouvé de titre comme ça plus magnifique que celui-là. Il y a des territoires qui sont aux autres. Mais on a tout annexé. On a une victoire complète à l'échelon de la planète. On a tout gagné. Tout nous est subordonné. Mais c'est, dans le même temps, la victoire, c'est aussi un potentiel désastre. Il faut découvrir. On a fait quelques avant-premières, et quand même, c'est formidable, des enfants qui ont 5 ans, 6 ans, qui connaissent pas la mer, qui la connaissent par récit, mais qui la connaissent pas comme ressenti. Se baigner dans la mer, plonger, s'immerger dans la mer. Et donc, ils ont regardé le film, il y a des scènes qui les ont choqués. Non pas que les scènes sont violentes. Ils ont été choqués par ce que font les hommes sur les animaux de la mer. Ça les a choqués. Et à la fin, comme il y a très peu de commentaires, c'est 7 minutes et demie dans le film, on leur a demandé, est-ce que, enfants, vous avez des questions à poser? Ils étaient 400, il y a 400 bras qui sont levés. Parce que ça les fascine. Ça les fascine et ils ne savent pas que ça peut les fasciner. Et il y a des tas de gens qui sont indifférents et qui... Mais comment faire pour prendre, je sais pas, nos concitoyens, les prendre par la main, les mettre la tête sous l'eau, non pas pour les noyer, mais leur faire comprendre à quel point c'est beau et à quel point on a besoin de cette diversité. Je vais reciter la phrase de Francis Roux, mais que je trouve exemplaire, qui est « Rien ne serait plus inhumain qu'un monde où il n'y aurait que des êtres humains. »
Et c'est bien pour ça que nous allons poursuivre avec des animaux. Merci à vous, Jacques Perrin. Et puis, donc, on va maintenant butiner avec un faiseur de biodiversité, Yves Elie. Nous sommes en Lozère.
Chez nous, en Occitan, le bas des troncs qui était traditionnellement utilisé pour faire les ruches, parce qu'on n'utilisait pas pour faire des charpentes, il est très noueux. Et ça forme ce qu'on appelle ici des bougnes. C'est des trognes, bougnes, on n'est pas loin. C'est-à-dire des protubérances qui ressemblent à des nez, à des yeux. Bon, c'est quelque chose qui parle à l'imagination et qui nous sensibilise, en fait. C'est comme des champignons, des personnages. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un élevage dont la structure même est profondément biologique. Et c'est surtout le plus formidable dans ce magnifique spectacle, est en fait invisible. C'est comme une musique et c'est le rythme de vie qu'ont les abeilles dans le ruchetron. Un rythme de vie très proche, si ce n'est complètement proche, de la biologie naturelle des abeilles noires d'origine, qui étaient des animaux sauvages de l'espace méditerranéen.
Et oui, parce qu'avant de s'intéresser aux techniques apicoles, il s'intéresse bien au rythme de vie de ces abeilles. Alors, à quelle heure passent Monsieur Stevenson et son ânesse Modestine? Ah, il est déjà passé en 1878. Mais en fait, il est passé là, oui, dans cette vallée de l'Abeille Noire où nous sommes, sur l'ancienne route de Florac au pont de Montvert. Alors, il a trouvé le mont Huguenot, d'ailleurs, lui qui était Huguenot écossais, et des abeilles l'ont sûrement accompagné. Abeilles en Lozère, le noir leur va si bien. Ce conservatoire de l'abeille noire, donc résistant, de vive, frugal, sélectionné par des millénaires d'âpres conditions, a trouvé vraiment sa place dans ce très beau département lozérien, au pied des 1700 mètres du mont Lozère, alors qu'il est pourvoyeur d'eau, berceau du Tarn, du Lot et d'autres rivières. Yves Elie, lui, il est ancré dans ce paysage depuis les Cathares, depuis le XIIe siècle. Et puis, les protestants ont aussi remonté cette vallée du Tarn, qui sont des conservatoires d'êtres humains, parce que eux aussi donc étaient chassés. Il a réalisé des documentaires très engagés et est devenu apiculteur. Chez Actes Sud, dans la collection Monde Sauvage, il a sorti La Vallée de l'Abeille Noire. Alors, venez, on vous emmène au pays des ruchetrons en Lozère.
A priori, aujourd'hui, c'était une très belle journée. On va pouvoir s'approcher par le côté sans même en fumer et les observer de près.
Ah ouais, très bien.
Mais il vaut mieux mettre tout de même un petit costume. Allez, pour hop. Éviter les surprises désagréables.
Vive le blanc, on y va. Allez.
Le petit grillage, c'est pas inutile. Voilà. Chaque ruche a son aire d'envol. Ce que nous avons devant nous, là, est un ensemble de gradins qui n'est pas sans rappeler le principe du théâtre antique, dans lequel chaque ruche a une aire d'envol spécifique qui ne croise pas celle de sa voisine. Et c'est le mode ancestral d'élevage des abeilles noires dans notre région, et dans d'autres régions du monde d'ailleurs. Mais ici, la spécificité, c'est cette architecture très protectrice, totalement bâtie pour favoriser la biologie de l'abeille.
Alors ça, c'est une méthode qui remonte à quand? Parce que donc on voit, on imagine donc ce tronc qui est coupé, dedans donc il doit être évidé, qu'est-ce qu'il y a là?
Ce modèle est très archaïque, il remonte probablement à un trait de génie de nos ancêtres lointains qui ont observé la nidification des abeilles dans les troncs d'arbres et se sont dit, si on accumulait comme ça des troncs d'arbres peuplés d'abeilles près de notre habitat, ce serait moins laborieux que de partir dans la forêt, grimper dans des arbres élevés, aller les percer à coups de hache, de mauvaises haches, n'ayant même pas d'outils électriques, etc., ni d'échelle, et ni de vêtements de protection.
Donc ce sont un peu les ancêtres de nos ruches modernes, enfin c'est...
Oui, alors il y a deux grands modèles sur la planète d'habitat créés par l'homme pour les abeilles. C'est la ruche tronc, qu'on retrouve aussi au Népal et en Chine, pour info, ou en Afrique. Et puis il y a aussi, là où il n'y a pas des troncs qui favorisent ce type de ruche, c'est la ruche tressée, qu'on trouve par exemple dans certaines coins du Cantal, ou de Bretagne peut-être, de Normandie.
On va se faire un très léger retour en arrière. Donc, nous sommes il y a 20 000 ans, donc au cours de notre dernière glaciation. Nos abeilles, déjà à cette époque-là, en tout cas ces abeilles noires, donc, existaient alors ?
Elles se sont réfugiées avec d'autres abeilles de l'ensemble de l'Europe vers le sud de la France, et plus particulièrement le sud-ouest, qui était, pour des raisons de courant maritime, un peu mieux loti, mais guère. Et là, les plus résistantes ont survécu. Et ça a généré ce qu'on appelle en biologie une spécification, c'est-à-dire la création d'une espèce spécifique, identifiable avec des marqueurs ADN spécifiques, avec des comportements spécifiques, héréditaires, l'abeille noire. Et ensuite, ces abeilles noires, donc, qui ont été naturellement sélectionnées par des dizaines de milliers d'années sur des centaines de milliers de populations, ont prospéré. Et lorsque les glaciers ont bien voulu remonter vers le nord, elles ont, elles aussi, colonisé l'ensemble de l'Europe du nord-ouest, ce qu'on appelle l'espace nord-ouest méditerranéen.
Est-ce qu'on peut dire que ce sont les ancêtres de nos abeilles domestiques ?
Parce que oui.
Non, là, on leur a mis un tampon abeilles domestiques, mais enfin, elles sont quand même assez sauvages. Hein,
le tampon abeilles domestiques a été fait pour des raisons politiques au 19e siècle, pour arranger une certaine catégorie d'apiculteurs urbains des plus privilégiés, proches des membres du Sénat, qui n'avaient pas envie qu'on leur empêche d'avoir des abeilles en ville, dans leur jardin, près de leur serre d'orchidées, pour la bonne raison que c'était jusque-là considéré comme des animaux sauvages, comme c'est toujours le cas d'ailleurs en Allemagne aujourd'hui.
Ouais.
Puisque est sauvage toute population dont la reproduction n'est pas maîtrisée et canalisée.
Alors je suis une abeille noire, ça veut dire que je vais être plus frugal que les autres, plus rustique, et je vais être aussi plus âpre à défendre mes réserves de miel.
Ah oui, absolument. Ce sont les traits héréditaires de l'abeille noire qui, pour des raisons de survie à l'ère glaciaire, où elle était confrontée à des ours affamés, à des putois, des martres, et aussi à des êtres humains affamés, elle n'avait aucune chance de survivre si elle n'était pas capable de rapidement réagir et monter au créneau.
Intérêt, oui.
Voilà. Donc ça, cette réactivité, qui est souvent à tort appelée agressivité, c'est une caractéristique. Et la frugalité en est une autre, parce qu'il fallait survivre dans des conditions botaniques qui étaient celles du nord du cercle polaire aujourd'hui.
Et elles sont capables de dire non, c'est ce que vous dites. Elles savent dire non.
Oui, alors ça c'est une parole de Cévenol, parce qu'on n'aime pas du tout les dogmes. On a le culte de la résistance.
Oui,
hein.
Ça,
dire non à l'inacceptable. Et l'abeille noire dit non à l'inacceptable du point de vue apiculture, à des pratiques qui vont trop contre sa nature. Elle dit non, elle se met en colère, elle pique terriblement, elle rend la vie impossible. Et il y a des apiculteurs qui aujourd'hui aimeraient bien la sélectionner pour la rendre docile,
oui,
et plus productive. Mais ce ne sera plus de l'abeille noire, ce sera de l'abeille noire altérée par l'être humain.
C'est ça, ce sera de la Holstein de l'abeille.
Ouais, quoi, une bonne vache allée pour la montagne, c'est à ça. Miel plutôt, ouais. Une vache à miel.
Ronde des abeilles.
J'ai vu trois abeilles qui, dès le matin, faisaient des merveilles au fond du jardin. La plus jeune abeille, butinant du thym, m'a dit à l'oreille, mon miel est divin. La seconde abeille m'a mis sur la main un peu de groseille pour manger mon pain.
Et en fait, ces ruchers troncs étaient à l'abandon. Et vous, donc, avec votre association, vous-même, vous avez dit, elles étaient là bien avant nous et on continue.
Ouais, c'est-à-dire qu'au terme d'une petite carrière de cinéaste, j'ai eu la chance de tourner un documentaire avec un des derniers témoins de cette apiculture-là.
Paul l'Ancien.
Paul l'Ancien, qui a aujourd'hui 102 ans, conduit toujours son automobile, et qui est donc en forme parce qu'il a mené toute une vie passionnante avec les abeilles noires. Et avant de disparaître, il voulait transmettre.
Nous avons coupé la hauteur d'une ruche ancienne, d'une ruche tronc. Nous l'avons creusée, nous l'avons mise comme étaient les ruches anciennes.
Et donc ça a été mon travail de documentariste, de le filmer.
On allait faire des scènes par tapotement.
Et j'ai découvert cette apiculture très sensible, très proche de la nature. Et on s'est dit, bon là il y a un patrimoine qui est très intéressant à partager, puis aussi peut-être à expérimenter comment l'adapter aujourd'hui. Puisque l'environnement a beaucoup bien sûr changé, c'est une des raisons pour lesquelles aussi ces ruches ont été abandonnées.
Et quand des abeilles montaient, des fois tu voyais passer la reine.
Jusqu'aux années 1980,
Elles étaient aussi bien portantes, on va reprendre cette phrase de Julien Gras qui disait « jusqu'au premier temps du monde ».
Exactement. Elles se débrouillaient parfaitement sans l'être humain, puisqu'à la base, l'abeille noire est une abeille sauvage qui est tout à fait capable de se débrouiller toute seule, comme un renard par exemple, ou une pie ou un jet. Le problème, c'est que les années 80, en apiculture, il y a une bascule gigantesque et que dans le cadre de l'intensification de la mondialisation des échanges, qui n'y a rien de nouveau, mais qui s'est terriblement accentué et accéléré, on a importé des abeilles du Caucase qui étaient porteuses d'un parasite dévastateur.
Le varroa.
Le varroa, exactement, qui est un acarien qu'on pourrait comparer à une petite tique qui prélève l'hémolymphe, c'est-à-dire l'équivalent du sang chez les insectes, et qui injecte des virus mortels, un peu comme la tique, mais en pire, parce que c'est autrement plus mortel que la tique pour les êtres humains. Et donc là, à partir de là, les populations d'abeilles noires vivant à profusion dans les forêts d'Europe ont été complètement impactées. Il en restait très peu. Et dans les ruchers troncs qui étaient conduits de manière hyper naturelle, mais sans le savoir, bien avant l'apparition même du mot biologique ou label biologique, depuis des siècles, elles ont été violemment touchées par ce parasite. Et comme ça correspondait en plus à la déprise rurale et à l'abandon de soins de pas mal de fermes dans les Cévennes, les abeilles ont été laissées à l'abandon. Et un certain nombre ont survécu, comme il survit toujours une petite partie de la population. Ça nous a paru très urgent de les sauvegarder dans cette vallée dont nous avons créé une sorte de collection des survivantes,
c'est ça,
en quelque sorte.
Samuel est apiculteur professionnel. Il a commencé son activité en 2000 et compte 550 ruches. Comme d'autres apiculteurs, il a constaté la mortalité de colonies d'abeilles. La cause, cet acarien, le varroa. Ce parasite s'attaque aux abeilles adultes, mais également aux larves et décime les ruches.
Il y en a un que je connais, un apiculteur qui m'a dit « sur 20, il m'en reste 2 ». Vous retrouvez des ruches avec un peu de miel dedans, et puis une seule abeille dedans, vous retrouvez 50, 100 abeilles, la tête dans les alvéoles, mortes, et plus du tout une abeille dans les ruches. Donc ça, c'est le symptôme varroa.
Alors cette vallée noire, pour la dépeindre, d'abord le mot noir, ça peut être tout à fait intéressant, c'est presque historique le côté noir, je crois.
Oui, le côté noir est historique quand on se penche sur l'histoire des abeilles et en général de notre culture, noir égale sauvage et voire diabolique, satanique. C'est la couleur du mal, l'inverse de la civilité, de l'organisation hiérarchisée, canalisée, juridique, etc. Et donc l'abeille noire, c'est un peu emblématique de la part sauvage qui nous tient à cœur aujourd'hui de redécouvrir, nous citoyens d'Europe, de pactiser avec elle et surtout de nous devenons de plus en plus conscients de sa véritable valeur. Et c'est un peu aussi la raison d'être de cette collection d'abeilles noires, aussi transmission de pratiques liées à la part sauvage, c'est-à-dire des pratiques calées sur la biologie de l'abeille, la sédentarité par exemple.
Alors, on va peut-être la dépeindre quand même.
Ah oui, l'abeille noire. Hein. Alors, il y a plusieurs écotypes d'abeilles noires. Par exemple, l'abeille noire du Tyrol est d'un noir de jais profond, alors que la nôtre ici, elle est plutôt café au lait, on va dire, café au lait foncé. C'est sa cuticule, c'est-à-dire ce qui constitue en fait son enveloppe, qui est de cette couleur. Ensuite, elle a toute une série de poils dorés. Et elle a une forme particulière dans les Cévennes, l'abeille noire, c'est qu'elle est petite et elle est bien arrondie sur l'arrière, alors qu'on en trouve des plus fuselés, par exemple.
Alors là, elle m'entoure. Vous, un peu moins, parce qu'elles connaissent votre odeur, c'est ça ou...
Non, non, pas du tout. Non. C'est juste que je ne suis pas juste devant l'entrée, ah oui, et vous vous trouvez ça. Juste devant. C'est pour
c'est
ça, que...
C'est ça, vous m'avez placé dans l'entrée, c'est formidable.
Mais je vais quand même mettre ma veste.
Bon, je voilà.
On est vers la fin de l'été, il n'y a pas beaucoup de fleurs. Actuellement, il y a juste la bruyère en hauteur, ce qui est déjà pas mal. Mais en fait, comme il y a relativement peu de fleurs, les abeilles sont dans une certaine situation de stress. Alors probablement aussi que l'abeille noire est très sensible à ça, parce que ça lui rappelle peut-être des mauvais souvenirs de la pénurie des ancêtres qui, à l'ère glaciaire, avaient très peu de fleurs à se mettre sous la dent.
Pierre, dis-moi, je ne suis pas en situation de stress, je suis en situation de prudence, donc je vais m'écarter un tout petit peu. Voilà.
Regarde, on m'a piqué.
Le temps de faire un écart, heureusement, elle ne va pas piquer, tout va bien. On se retrouve dans quelques instants au pays de l'abeille noire en Lozère.
À la campagne, il y a toujours un truc à faire. Aller aux champignons, couper du bois, prendre l'air. À la campagne, on se fout des horaires. comme les maisons du même nom, c'est secondaire. À la campagne, y a toujours un truc à voir. Des sangliers, des hérissons, des vieux sur des tracteurs. À la campagne, y a des lieux pleins d'histoire. Des châteaux tout cassés et des arbres centenaires. À la campagne, quand on est citadin. À la campagne, on demande aux paysans le temps qu'il fera demain. À la campagne, on veut de l'authentique, du feu de cheminée et du produit régional. À la campagne, il nous faut du rustique, un meuble qui n'est pas en bois, ça nous ruine le moral. À la campagne, on dit qu'on voudrait rester, quitter Paris, le bruit, le stress et la pollution. À la campagne, c'est la fête aux clichés, la qualité de vie et le rythme des saisons. On se prête des bulles quand on traîne sur la terrasse. À la campagne, il y a des jeux de société auxquels il manque des pièces. À la campagne, la nuit on ferme des volets. Il y a des bruits dans la maison et dehors dans la forêt. À la campagne, dans mon lit plutôt crevé, je préfère pas fermer l'œil et flipper. À la campagne, en principe on se lève tôt. Moi je dors encore pour les raisons que vous savez. À la montagne, il y a des chalets, des chamois. Mais c'est pas l'objet de cette chanson. Je voulais juste voir si vous suiviez. À la campagne, quand arrive le dimanche. À la campagne, pour éviter les bouchons, on va peut-être pas rentrer trop tard. À la campagne, j'ai envie d'être campagnard, d'avoir une grosse moustache et un gilet en velours. À la campagne, j'ai envie de parler terroir. Je m'en vais à sacrer le calanchet pour pas qu'il vente dans les labours. Ça me donne envie d'être robuste et taiseux. Le patriarche bourru d'une série de l'été de France 2. L'histoire d'une famille qui lutte pour son domaine. Mais j'ai jamais le temps parce que je reste que le week-end. À la campagne, entends-tu au loin le cri de la grivette cendrée. À la campagne, s'il neige à la Noël, je rentrerai les bistouquets dans les tables.
À part la grivette cendrée, sinon tout va bien. Donc merci à Benabar. Allez hop, lui aussi on le glisse dans notre herbier de paysage.
Regardez une petite abeille.
C'est au deux, mon amour.
Une petite abeille. Oh, petite abeille.
Sur France Inter.
Et dans ce département de la Lozère, donc ces abeilles ne broient pas du noir. Non, elles en fabriquent dans ce fameux conservatoire. Vous en avez une dizaine à peu près hein, de ces fameux conservatoires, avec soutenu d'ailleurs, faut le dire, par l'association Polynis. Et donc la résistance, on comprend, fait partie de l'ADN, aussi bien chez les humains que chez les abeilles. On retrouve Ivelli. Ivelli, nous entrons dans ce conservatoire qui est votre laboratoire hein, aussi.
Oui, c'est un laboratoire et surtout
ciel ouvert.
À ciel ouvert et surtout un lieu de construction donc d'un paysage favorable aux pollinisateurs qu'on mène avec des institutions, l'ONG Polynis et d'autres associations. Et donc l'idée, c'est de présenter au public ici, dans cet espace ouvert au public, une belle variété des espèces fruitières locales, très anciennes, qui ont été cultivées de temps immémorial, qui sont très adaptées au milieu et qui, de ce fait, se passent également de traitements chimiques. Et ça, c'est très intéressant pour les insectes et pour notre aspiration à une agriculture respectueuse du vivant. Et alors, l'autre aspect très intéressant, c'est la gastronomie, c'est-à-dire que toutes ces variétés ont des grandes spécificités gastronomiques, des arômes, des goûts fort différents, et également, ce n'est pas tout, des propriétés très différentes au niveau de la conservation, puisque ces espèces cultivées par nos ancêtres pouvaient se conserver aisément tout l'hiver sur de la paille, sans réfrigérateur, ni congélateur, ni chambre avec du gaz qui inerte le mûrissement ou le pourrissement. Donc vous voyez, c'est très intéressant parce qu'au niveau énergétique également, c'est une palette de ressources dont on peut s'inspirer.
Oh, ça c'est trop génial! J'aurais jamais cru qu'un jour je garderais la ruche avec ma meilleure amie.
Halt! Il sent pas bon! Je crois qu'il est moisi. Oh. Vous l'avez trouvé où ce pollen?
Moi, je butine le pollen où on me dit de le butiner. Il vient des fleurs d'un pommier, mais c'est vrai qu'elles étaient bizarres, comme si l'arbre était malade.
Un des fonds du problème, c'est la nourriture de ces abeilles, qu'elles soient noires ou autres. Et vous dites assez justement qu'il y a un rapport alors tout à fait direct entre la malbouffe humaine et la malbouffe des pollinisateurs.
Oui, comme beaucoup, j'ai été frappé par le message de José Bové. Ouais. Et je me suis dit, mais attention, il faudrait penser un peu aussi à d'autres que l'espèce humaine et les animaux, dont notamment les pollinisateurs qui se nourrissent de fleurs, aujourd'hui sont dans une situation de malbouffe extrême, puisque d'un côté, dans les grandes plaines, ils sont confrontés à des cultures clafies d'insecticides, et que de l'autre côté, dans les zones comme les nôtres, de montagne, c'est la déprise rurale, la fermeture des milieux, la progression de l'ombre et la régression des fleurs.
Ah, là, c'est pas fauché.
Non, on n'a pas encore fauché parce que on a mis du trèfle. Ah, ça oui. Fait partie d'un des axes de travail dans la vallée, c'est de recréer un paysage favorable aux pollinisateurs. Donc on a des cultures expérimentales de prairies fleuries, un verger conservatoire qu'on va aller voir.
Ah, tiens, là, dans votre prairie, a priori, c'est des sophoras, c'est ça, comme arbre ?
Les sophoras du Japon. Qui en fait, à l'origine, ne sont pas du tout du coin, non, mais qui, avec le réchauffement climatique, s'adaptent très bien, ainsi que, par exemple, les kakis, et qui ont l'avantage, ces sophoras, de fleurir à un moment donné où il y a très peu de fleurs, début août. Et début août, ça va constituer un menu potentiel pour les pollinisateurs. Nous avons là une aubépine sauvage sur laquelle on a greffé avec succès un poirier. Et ça fait partie d'opérations qu'on fait de sensibilisation à la possibilité d'amender, comme on disait autrefois, le monde végétal, le diversifier par des greffages. Et on va comme ça faire apparaître dans le paysage une foultitude de variétés florales qui va être un élargissement du menu des pollinisateurs sauvages et de nos abeilles noires.
Bon, je remets le chapeau là.
Je crois qu'il vaut mieux que vous protégiez un peu.
Oui, bah je...
Bon, si tout se passe bien, elles nous laisseront passer, mais il y en a une qui peut le prendre mal, qu'on fasse intrusion.
C'est ça, parce que c'est quand même un peu susceptible, je suis bien compris.
Par le côté, hein.
Par le côté, oui.
Par là plutôt.
Là,
par là plutôt.
Parce que si dirigez-moi.
Ça entre deux ruches.
Voilà. Dirigez-moi, et ça, entre deux ruches, ce sera pas bon. Et donc, cette abeille-là, elle a résisté donc, à des climats tout à fait différents. En revanche, là où elle est mal, comme toutes les autres abeilles, c'est lié aux pratiques agricoles.
Elle souffre, l'abeille noire, comme l'ensemble des pollinisateurs sauvages, dont elle fait partie en fait, et les pollinisateurs élevés aussi par l'homme, comme les abeilles hybrides, souffrent de la misère florale qui sévit aujourd'hui en Europe, qui est le fruit de l'industrialisation de l'agriculture qui ne cesse de progresser. On assiste à un accroissement des ce qu'on appelle en termes agricoles les surfaces minimum d'installation, c'est-à-dire qu'il y a peu de temps encore, il fallait 400 colonies pour s'installer en apiculture de manière professionnelle. Aujourd'hui, vous voyez des jeunes qui démarrent avec 800, 1000 colonies. Et souvent, ils se cassent la gueule d'ailleurs. Ouais. Mais on les pousse à ça. Et tout le système pousse au gigantisme. Et c'est bien sûr une fuite en avant complètement folle. Et dont pâtissent bien sûr les pollinisateurs, mais l'ensemble de la planète.
Bon, alors peut-être que le rendement évidemment est peut-être moindre aussi, parce que vous faites ça un peu en méthode traditionnelle, non ?
Oui, en fait, nous avons très peu de mortalité, en l'absence de pesticides, bien sûr, nous avons très peu de mortalité, pas plus qu'il y a 300 ou 400 ans.
Alors que dans d'autres coins des Cévennes, même sans pesticides, il peut avoir 30 ou 40% de mortalité.
Oui, parce qu'en fait, si on exerce une pression d'élevage importante sur les abeilles, on les fatigue et on va favoriser, comme chez les êtres humains, l'apparition de pathologies. Il suffit en fait de lever un peu le pied. Et là, on a la merveilleuse surprise de voir que ça fonctionne comme il y a des siècles. Ouais. C'est un message d'espoir, je trouve. Ouais. Et cette constatation, nous l'avons faite sur une expérimentation de plus de 10 ans sur plus de 200 colonies. Ce n'est pas une constatation sur 10 colonies en une année.
Bisquidam signis atque ec exempla secuti esse abibus partene dixere.
Il faut qu'elle t'entende.
Oncle Albert disait, il n'y a que Virgile qui calme les abeilles.
Le patois aussi, celle d'ici en tout cas. C'est merveilleux cette année.
Eh oui, c'est dans l'air. Hein.
Là, on continue parce qu'on arrive sur une rivière qui est chère à mon cœur et à mon département. On est à peu près à 400 mètres là, de vos ruchers. C'est le Tarn qui prend naissance au-dessus du pont de Montvert, pas très loin.
Voilà, et qui traverse tout ce site, qui forme en fait une sorte de cirque qui est protecteur pour nos populations d'abeilles noires, puisque cette isolation géographique naturelle nous protège un peu des phénomènes d'hybridation et nous permet donc de conserver une pureté qui n'est pas parfaite, mais quand même assez remarquable par rapport à l'état actuel sur l'ensemble du territoire français.
Comment se portent globalement vos abeilles, vous ?
Alors, nos abeilles se portent d'autant mieux qu'on pourrait dire qu'on ne leur casse pas les pattes et que les pratiques que nous avons avec elles sont directement inspirées de celles de nos ancêtres qui, par nécessité, respectaient leurs animaux, car c'était leur assurance de survie. Donc, on ne maltraitait pas les animaux parce qu'il n'y avait pas de possibilité de rattrapage, que ce soit les moutons, que ce soit les vaches, que ce soit les arbres fruitiers ou les abeilles. Et donc, on était extrêmement prudents et la prudence suggérait à nos ancêtres de travailler au plus près de la nature, c'est-à-dire de ne pas déplacer les colonies, de les laisser vivre toujours au même endroit, comme elles souhaitent le faire spontanément d'elles-mêmes, c'est-à-dire de les déranger le moins souvent possible. Vous savez, Lao Tzu a écrit qu'il faut gouverner les êtres humains comme on fait frire les petits poissons, puisqu'on est au bord du Tarn, on peut en parler, en les remuant le moins possible, en les remuant, en les perturbant le moins possible. Et les abeilles, c'est un peu pareil. Moins on les dérange, mieux elles se portent. Donc on récolte qu'une fois par an, grand maximum deux, mais pas plus. Et puis ensuite, autre élément important, nous leur laissons le libre choix de leur reproduction. Il n'est pas question d'élever des reines et nous travaillons avec la reproduction naturelle des colonies comme faisaient nos ancêtres.
Lorsque une abeille, on va dire, disparaît, après, comment ça se passe ?
Alors, d'abord, on peut parler plutôt d'une colonie, d'un ensemble d'abeilles qui forment un peuple. En principe, si tout va bien, elle est éternelle. En ce sens qu'il y a un renouvellement du principe fondateur qui est la reine. Il y a un renouvellement des reines, un peu comme un renouvellement de nos présidents de la République, même s'ils n'ont pas la fonction de générer tous les individus de la nation, comme les reines d'abeilles, elles, ont la fonction de mettre au monde toutes les abeilles de la colonie. Et c'est extrêmement fatigant, bien sûr, et au bout d'un certain temps, elles viennent à terme, et il y a un remplacement naturel qui s'opère. Alors, ce remplacement, aujourd'hui, il est fait beaucoup par l'être humain, par des moyens qui biaisent beaucoup la nature, à des fins de productivité, c'est un choix. Mais on peut aussi faire le choix de laisser faire la nature. Et dans notre entreprise expérimentale, dans le cadre de notre association, nous avons le constat intéressant que cette politique-là permet d'avoir des mortalités d'abeilles des plus naturelles, les mêmes qu'il y a plusieurs siècles, et permet néanmoins aussi une certaine récolte de miel qui permet un fonctionnement, on va dire, agricole assez correct.
Yveli, profondément, pourquoi vous aimez cette abeille noire et pourquoi donc tout ce travail ? Depuis des années.
Alors c'est certainement pas seulement parce qu'elle est noire et parce que sa cuticule, c'est-à-dire son enveloppe, est si bien cirée qu'elle reflète le bleu du ciel, même si c'est une bonne raison de l'aimer. En fait, c'est parce qu'il y a cette simplicité, cette évidence de la force de la nature à travers cette abeille et de toute la richesse qu'elle représente précisément dans ce monde perclus de technicité, de sophistication, très éloigné du vivant, qui nous met quelque part en péril. C'est quelque part en soi une sorte de bouée. C'est un symbole plus qu'autre chose, mais elle véhicule un message auquel je suis très sensible.
On peut vous souhaiter un jour peut-être de vous réincarner en abeille noire ou...
Je ne sais pas. En fait, ce qu'on peut souhaiter aussi, c'est que nos dirigeants européens deviennent quand même plus sensibles à l'intérêt qu'il y aurait à conserver l'abeille européenne par excellence, c'est-à-dire l'abeille noire, qui est tout de même en voie de disparition, et que dont nos élus conçoivent la nécessité de conserver l'abeille noire pour l'abeille noire, et pas pour la filière apicole, pour le bien public que représente l'abeille noire, bien public européen.
Voilà une autre façon donc d'élever ces abeilles sans biaiser la nature, sans la forcer. Il l'a bien dit, en fait, il suffirait de lever le pied, ce qui est une très belle métaphore de nos joyeuses sociétés où on a un petit peu intérêt à réduire la voilure. Voilà, et donc, vraiment, je vous encourage, je crois qu'on a mis une photo ou deux sur ces ruchers troncs donc, qui ont été creusés dans le châtaignier, ces riches en tanins. Ça a une allure d'amphithéâtre, c'est des formes de trognes, c'est extraordinaire. Ivelli, je le rappelle, a écrit La vallée de l'abeille noire dans la collection Monde sauvage chez Actes Sud. Et là, vous saurez tout sur cette abeille qui est peut-être une abeille idéale de transition écologique. Eh ouais, parce qu'elle a traversé déjà pas mal d'épreuves, elle va peut-être poursuivre. Merci aussi, tenez, à Fatine Gadry de Télérama, parce qu'elle a flashé sur ce sujet. Donc cette semaine, vous avez un écho, vous avez un petit reportage sur au sein des essaims. Voilà, au sein de l'essaim de cette abeille noire. Merci à Thierry Dupin qui a donc choisi le disque, voilà, de Benabar, à Clément Berman, à Jean-Louis Deloncle qui a mixé ce reportage, à Camille Blanès et Xavier Pestugia qui a colorisé, qui a réalisé cette émission. Que vous dire? Que la semaine prochaine, ça va être un autre animal. Ouais, on va se retrouver du côté de la Loire avec l'aigle pêcheur, le balbuzard. On va le découvrir aussi avec une balbucane parce qu'il est un peu cabot et donc c'est formidable devant une caméra. On peut déjà donc l'apprécier. Les podcasts, vous en avez l'habitude, ceux de Bestiole, ceux de Latulu, mon petit loup, ceux de CO2, mon amour, l'édito aussi que l'on peut retrouver. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de dimanche, du soleil sur vous. Voilà, et on continuera le voyage nature dès la semaine prochaine.